Donc moi, je suis un acteur de l'éducation non scolaire, hein, même si ma formation m'a fait passer d'abord dans le milieu de l'éducation nationale. Alors j'ai choisi pour vous rencontrer d'écrire un petit peu un texte, d'être dans une intervention un peu posée, vous m'en excuserez, mais sinon je pense que je me serais peut-être un peu trop fié aux interventions des deux précédents intervenants et j'aurais peut-être été trop en complément de ce qu'ils ont voulu dire. Donc j'ai choisi de construire le regard au préalable et de vous le délivrer. Comme je viens d'Aquitaine, je vais commencer par une citation d'un Aquitain aussi. Montesquieu, dans l'esprit des lois, disait « Nous recevons trois éducations différentes, au contraire, celle de nos pères, celle de nos maîtres et celle du monde. Ce qu'on nous dit dans la dernière renverse toutes les idées des premières. » Et sur cette base-là, je crois qu'il faut que nous, on construise notre approche de l'éducation en prenant en compte aussi cette éducation du monde. L'éducation populaire, telle qu'on la connaît, telle que vous la connaissez, telle que vous la croisée sur vos territoires intervient dans ces démarches d'éducation parce qu'on a prouvé, et les propos précédents me renforcent sur ça, que des démarches éducatives, un système éducatif ouvert sur son environnement nous montre que les apprentissages se construisent dans la diversité, la complémentarité, certaines fois les oppositions de situation, et que tout ça articule plusieurs domaines éducatifs qui sont l'éducation formelle, dont on vient de parler, l'éducation non formelle et l'éducation informelle. Et pour nous, l'éducation populaire, parce qu'elle s'intéresse à tous et qu'elle peut être portée par tous les apprenants, tous les citoyens, investit ces trois espaces éducatifs, le formel, le non formel et l'informel. Elle investit le formel parce qu'elle ne peut, de notre point de vue, sur le plan territorial, ne fonctionner qu'en lien le plus étroit possible avec le milieu scolaire dans lequel les enfants passent quand même un nombre non négligeable de temps utile, on l'espère, mais de temps vécu déjà. Et puis parce que la nécessité, c'est aussi de faire lien avec les acteurs de l'éducation nationale. Elle investit l'espace de l'éducation non formelle, et presque, j'ai envie de dire, c'est l'éducation populaire qui a inventé l'éducation non formelle, par toutes les démarches qu'elle a su mettre en œuvre autour des notions de projet, de participation, de qualité des situations données à vivre aux participants, qu'ils soient mineurs ou adultes, de la dimension collective des pratiques, parce qu'on apprend aussi en faisant avec d'autres, et de la valorisation des participants. Il y a des points de suspension, on peut compléter, bien sûr. Et enfin, plus récemment, elle intègre, et je pense qu'Anne Barrère reviendra sur ces notions, elle intègre des éléments d'éducation informelle, ne serait-ce que parce qu'elle a pris complètement... qu'elle a pris complètement de face la question de l'influence du milieu dans lequel on vit, de l'influence des médias qu'on reçoit tous les jours, ou bien de l'apprentissage entre pairs qui n'est commandé par personne et par surtout aucun des acteurs éducatifs classiques. Cette éducation populaire que nous voulons promouvoir participe à une fonction sociale. On parle beaucoup ces temps-ci du vivre ensemble, mais c'est aussi un concept qui s'est construit dans l'éducation populaire et dont on reconnaît la qualité maintenant. Elle n'est pas ignorante des besoins affectifs, le bien-être, le plaisir, qui contribuent aussi à l'éducation, ne serait-ce que parce que ça facilite quelquefois la mise en place de savoir-être, voire de savoir-faire. Enfin, l'éducation populaire s'intéresse à tous les domaines de l'éducation ou de la culture, qu'il s'agisse des cinq domaines du socle commun qui ont été cités, qu'il s'agisse d'éducation artistique et culturelle, on le verra un peu plus loin dans la journée, qu'il s'agisse aussi des pratiques amateurs librement organisées par les participants, ou qu'il s'agisse de contenus, puisque Daniel, dans l'introduction, évoquait les contenus. L'éducation populaire s'intéresse aux sciences et techniques, à l'interculturel, au patrimoine, à la philosophie. Quand je l'énumère comme ça, ça nous semble être des contenus spécifiquement scolaire, mais la place du non scolaire dans ces espaces-là, dans ces apprentissages, dans ces découvertes-là, est fondamentale. En deuxième point, je voulais apporter quelques éclairages sur la façon dont les espaces éducatifs hors scolaires contribuent aux apprentissages et à la construction des compétences, en référence à ce qu'on a entendu tout à l'heure. Par rapport au socle commun. Alors j'ai trouvé en travaillant, parce que la formation c'est tout au long de sa vie, et moi j'ai eu la chance au moment de la, de la mise en œuvre de la loi de refondation de l'école, de me retrouver dans la situation de l'apprenant sur les bancs de l'université, en train de passer un master, et donc de devoir, à ce moment-là, au moment où arrivait la loi de refondation, recreuser un peu toutes les, toute la production, tous les concepts, tous les éléments qui pouvaient nous amener à imaginer des perspectives pratiques à cet ensemble-là. Et parmi les livres qui m'a été donné sur lesquels il m'a été donné de travailler, j'en ai retenu un pour vous présenter un exemple aujourd'hui. Il s'appelle Les inégalités d'apprentissage d'Elisabeth Bautier et Patrick Rayoux. Et dans cet ouvrage, les auteurs présentent la construction d'une compétence comme se superposant dans plusieurs registres. Ils en identifient trois. Un registre cognitif, sur la connaissance intellectuelle du monde, qui dépasse, qui se construit dans le temps de l'école, mais qui dépasse aussi le seul espace-temps de l'école. Un registre culturel constitué par une sélection de savoirs accumulés au fil de l'évolution des individus, qui est transmis aussi en partie par l'école, mais pas uniquement. Et un registre symbolique qui est déterminé par les rapports aux autres, qui est incontournable dans les situations d'apprentissage, et registre dont la dimension collective participe de la construction du lien aux autres, ce lien aux autres participant lui-même du processus d'apprentissage. Et ça, il me semble que l'assemblage de ces trois registres, on peut le trouver particulièrement dans des situations qui ont lieu à l'extérieur du temps de la famille et à l'extérieur du temps de l'école, dans des situations dont les organisations sont un petit peu moins contraintes que celles qu'on peut connaître dans l'espace de l'école, même si celui-ci n'est pas construit que sur des contraintes, bien entendu. En troisième point, je voulais relier ça avec la notion sur laquelle, enfin une notion centrale de cette journée, c'est celle des parcours éducatifs et des contenus des parcours éducatifs. Alors le terme de parcours éducatif, moi j'ai choisi entre trois approches qui peuvent être utilisées par différents acteurs. On entend souvent des acteurs dans les activités périscolaires ou dans les temps d'activité périscolaire parler de parcours éducatif pour illustrer un enchaînement de séquences d'activités sur un mois et demi, un trimestre qui amène les enfants à découvrir un certain nombre d'éléments et à produire à partir de ces éléments. Une autre approche, c'est celle qui consiste à considérer que le parcours éducatif est un fil conducteur qui permet à un enfant ou à un adolescent de découvrir, d'investir, de maîtriser un sujet en vivant des situations complémentaires en classe, hors classe, dans la famille, dans le temps d'éducation périscolaire, dans le rapport à ses pairs et en croisant ses différents apports, ses différentes découvertes. C'est sur ce registre que je me situerai pour la suite. Mais il y en a un troisième qu'on ne peut pas ignorer non plus, qui est la définition d'un parcours comme étant la période de vie du mineur caractérisée par la situation d'apprenant, mais qui court jusqu'à sur l'ensemble des âges qu'on a vus précédemment, et qui permet à terme peut-être de définir un choix d'insertion, une orientation, une insertion professionnelle. Moi, par rapport à l'endroit d'où je parle, je me situerai plutôt sur la deuxième définition, qui d'ailleurs renvoie à la notion de contenu, hein, que peut-on faire pendant ces parcours, et renvoie, on l'a vu tout à l'heure, à la notion de cycle, puisque s'agissant d'un âge à peu près homogène d'un groupe d'enfants, on peut très bien parler de parcours éducatif pour des cycles 1, pour des cycles 2, pour des cycles 3, etc. Alors à quoi servent ces parcours ? Ils doivent amener un certain nombre de connaissances, de réflexions, de pratiques complémentaires, qui sont complémentaires aux acquisitions prévues par le socle. C'est particulièrement visible, mais je ne l'effleurerai pas beaucoup puisque cet après-midi, une intervention est prévue sur le sujet. C'est particulièrement visible dans la façon dont ont été conçus les parcours d'éducation artistique et culturelle, hein, circulaire interministériel de mars 2013, qui mobilise autour de trois approches, des enseignements, des pratiques et des rencontres. Donc on voit là émerger trois dimensions, trois situations éducatives qui vont permettre de construire le parcours. Il favorise aussi le développement de compétences sociales. L'ancien socle commun, celui qui était construit sur sept piliers, en proposait deux, le 6 et le 7, qu'on appelait les compétences sociales autour de l'apprentissage de la citoyenneté, l'esprit d'initiative, la vie en société, l'autonomie, enfin des notions de cette nature-là, qui bien sûr se retrouvent dans les cinq domaines du socle actuel. Mais je voulais insister sur le fait que les parcours éducatifs, en plus des découvertes, des apprentissages, des maîtrises de contenu qu'ils permettaient, favorisent l'exercice des compétences sociales qui sont aussi prévues par le socle de connaissances, de compétences et de culture. En quoi ces parcours peuvent-ils participer à la réussite éducative ? Moi, je me suis centré sur quatre idées que je souhaitais partager avec vous. En premier lieu, ils rendent accessible à tous les enfants d'une tranche d'âge un certain nombre de sites, de ressources, une offre éducative locale. C'est une approche qui, bien sûr, tout de suite, va nous questionner du point de vue de la disparité territoriale. Moi, je travaille dans des départements dans lesquels l'espace rural est important aussi. Hein, et le rapport qu'on a avec les élus, c'est « mais comment vous voulez qu'on fasse ? On n'a rien ». Donc, il y a cette question-là est au centre des réflexions. Il faut se dire au passage qu'elle ne s'applique pas qu'aux enfants et aux élèves, elle s'applique à l'ensemble de la population du territoire. Donc on la focalise là un petit peu actuellement avec les PEDT, mais c'est une contrainte aussi pour les parents de ces enfants. Mais cette notion de rendre accessible l'ensemble des ressources locales doit nous amener à imaginer des démarches qui ne nécessitent pas d'être toujours en permanence immergées dans les lieux ressources. Une petite anecdote, si je peux me permettre par rapport au temps. Moi, je suis intervenu récemment dans une journée organisée par la FCPE, par la Fédération des conseils de parents d'élèves, et j'intervenais avec un principal de collège de Seine-Saint-Denis, qui a commencé son propos par dire « Nous, on n'a aucun problème de ressources dans le département, dans un département extrêmement urbain, des partenaires culturels, des partenaires sportifs, des partenaires du champ de l'humanitaire, etc., etc. En tant que principal de collège, disait-il, j'en cherche, j'en trouve tout de suite. Par contre, tous ceux qui vivent dans des espaces un petit peu moins favorisés du point des ressources savent les difficultés. Par contre, bien sûr, la Seine-Saint-Denis, tout de suite, on a une image du public et là, les difficultés ne sont pas dans la ressource, mais plutôt dans la façon de médiatiser la rencontre entre le public et ces ressources-là. Donc on pose le fait que l'accessibilité n'est pas qu'une accessibilité physique aux espaces de culture, aux musées, aux médiathèques, et que les parcours peuvent se construire différemment. Deuxième élément, il propose une offre éducative qui n'est pas liée seulement aux intérêts culturels ou éducatifs des familles, à leur capacité économique, y compris pour les enfants qui sont dans des espaces considérés comme difficiles. Difficiles du point de vue économique. Aujourd'hui, l'action de la collectivité territoriale et de ses partenaires sur la création de son projet éducatif de territoire et des parcours éducatifs qui en découlent, elle doit tendre à cette universalité des possibilités pour tous les enfants du territoire. Là aussi, petite anecdote, permettez-moi d'émailler mon propos de temps en temps, comme ça, d'éléments de terrain. En Aquitaine, il y a une ville relativement importante qui est dirigée par un ancien ministre de l'Éducation nationale. Vous voyez ? Qui, bien sûr, comme toutes les villes, possède des quartiers plutôt aisés et des quartiers plutôt moins aisés. Et on porte, nous, notre, en tant qu'acteurs d'éducation populaire et association complémentaire de l'école, on porte notre regard sur l'égalité d'offres sur l'ensemble du territoire. Et non la création d'offres infraterritorialisées au prétexte que l'école de musique est plus près de telle école et que les enfants de cette école pourraient accéder à l'école de musique pendant les temps d'activité périscolaire et pas les autres, parce que vous imaginez, il faut mettre en place un autobus, c'est compliqué, on n'a pas le temps. Donc on porte notre regard là-dessus pour que le territoire lui-même ne reconstruise pas ce qu'on appelle des inégalités spatio-temporelles dans le temps du temps extrascolaire. Troisième élément sur la participation des parcours à la réussite éducative, ils sont composés d'un certain nombre de situations dans lesquelles les compétences qui sont mobilisées ne sont pas strictement des savoirs scolaires. Et donc, les parcours doivent permettre à des enfants qui n'ont pas, j'ai mis des guillemets, un profil scolaire type, de découvrir et d'utiliser d'autres manières d'apprendre, ne serait-ce que par la réalisation collective ou l'échange entre les pairs. Et quatrième élément, alors ça, c'est peut-être un peu plus hypothétique, c'est peut-être un peu plus de l'ordre du vœu. Les parcours éducatifs qui se passent en partie dans le temps de l'école et aussi à l'extérieur devraient être connectés aux travaux des enseignants sur la façon d'enseigner en prenant en compte les différences des enfants et ainsi générer une organisation différente pour amener une même classe d'âge au bout d'un parcours, même si chaque élève, chaque enfant n'a pas fait les mêmes choses au même rythme. Mais ça, il y a un travail de conception à mener avec les enseignants, pas que, mais aussi avec les enseignants, qui est extrêmement important. Sur le plan des contenus, ces parcours peuvent se décliner sur des champs aussi divers que l'éducation à l'environnement. On commence à en voir pas mal. L'éducation au patrimoine, moi j'ai pointé ça parce que c'est un domaine dans lequel on a aussi construit une réflexion assez importante. L'éducation artistique et culturelle, la citoyenneté, c'est remis à l'ordre du jour, mais ça a toujours été un des fondamentaux de ces réflexions. L'interculturel, l'éducation aux valeurs du sport, etc. etc. Ça, après, on peut travailler quasiment à l'infini sur les listes de contenus. Cependant, ils doivent s'organiser avec quelques paramètres. Moi, je vous en propose 6. En créant des situations dans chaque temps de vie des enfants et des adolescents, et pas uniquement en focalisant que sur le temps scolaire ou que sur le temps de l'accueil périscolaire le soir après la classe, sur le petit tronçon qui précède le temps de vie en famille, en s'appuyant sur les différents acteurs éducatifs, professionnels ou non, et là on intègre aussi le souci de s'appuyer sur les parents pour travailler ces démarches, en imaginant des modalités de concertation, bien entendu, en impliquant les enfants eux-mêmes dans la définition et la réalisation de ce qu'ils font, et en créant des temps de valorisation dans lesquels nous, acteurs éducatifs, on peut mesurer par ce qu'on voit, ce qui a été intégré par les enfants et comment ils l'utilisent. Et sixième point, en se mettant dans une situation d'évaluation formative, au sens où on ne se polarise pas uniquement sur ce qui est montré, mais sur la façon dont ça a été traité, sur le parcours, sur le processus qu'ont vécu les enfants. Dernier élément, parce qu'il me reste une minute et demie. Ce sur quoi je vous disais, il me semble qu'on doit être vigilant dans le cadre de la collaboration du monde associatif au projet éducatif de territoire, que ce soit un PEDT, un projet éducatif local ou toute autre appellation d'un projet territorial d'éducation, c'est de ne pas considérer le monde associatif uniquement comme un prestataire d'activité, ce qui est souvent la première entrée, qui n'est pas une entrée à écarter, parce qu'après tout, je vous parlais tout à l'heure de connaître les ressources de son territoire, et le mouvement associatif et ses différentes activités sont aussi une ressource du territoire. Mais il faut aussi savoir imaginer d'autres choses. Bon, on a parlé de concertation, de coordination, de se mettre dans une situation de projet partagé, d'impliquer les différents réseaux, et tout ça, c'est de l'ordre du pilotage de projet, donc on ne l'abordera pas trop aujourd'hui, mais ça doit être au cœur de la réflexion des élus et des responsables de services qui ont en charge ces projets. Et par contre, ce sur quoi il me semblait que je devais insister aujourd'hui, c'est en se plaçant dans trois perspectives. Alors c'est un peu compliqué, trois perspectives peut-être, mais une continuité éducative, bien entendu, c'est ce qui fonde la notion de parcours. Hein, et ça, il y a à savoir ce qui se met en œuvre dans les différents temps de vie et comment ça illustre cette notion de continuité. Une cohérence qui se construit autour des sujets qu'on veut découvrir. La notion de contenu qu'on retrouve tout à l'heure, vous mettez en place un parcours d'initiation au patrimoine, d'éducation au patrimoine sur votre territoire, c'est à partir du sujet tel qu'il est défini au départ que vont se créer les cohérences éducatives et non pas uniquement en rassemblant des apports venant de lieux variés. Mais ces apports, ils nous intéressent parce que la troisième condition, à mon avis, c'est l'interaction entre les acteurs éducatifs. Et pour en avoir vu de près un certain nombre, on sait que ce qui réussit, c'est aussi les espaces dans lesquels il y a du dialogue, il y a du partage. Et le fait que les acteurs éducatifs qui interviennent sur un même parcours, hein, par exemple sur un parcours d'éducation au patrimoine, comme je le disais tout à l'heure, les acteurs éducatifs peuvent se croiser, se voir, se reconnaître, etc. etc. Et ça, c'est particulièrement important pour créer un esprit un peu collectif de ces acteurs autour du sujet et un esprit qui est soucieux de la progression des enfants, des adolescents qui participent à ça. Pour conclure, Daniel a évoqué tout à l'heure en présentation le collectif des associations partenaires de l'école, le CAP, qui a une structuration nationale et qui se trouve aussi dans toutes les académies. Donc, près de chez vous, il doit y avoir des associations membres de ce collectif qui partagent un petit peu les approches que j'ai tenté de donner aujourd'hui et qui peuvent accompagner les collectivités, pas toujours dans la réalisation, mais dans la réflexion et puis dans l'échange pour éviter d'être trop loin de ce qu'on a voulu faire au départ et rester un peu sur l'axe de son projet.
Merci.